Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, nous accueillons Robert Rivard.
Bonjour.
Jackie Lacourcière.
Bonjour.
Franck.
Salut.
Et moi-même, Nicolas Lehoux. Le thème de notre émission aujourd'hui sera « Le rire est anti-administratif ». Alors vous savez, quand on rit, on ne se soucie pas des convenances, on est très irrespectueux. Et c'est dans ce sens que le rire est anti-administratif.
Oui, c'est vrai. Parce que quand on se met à rire, premièrement, c'est très communicatif. Hein? Il s'agit qu'il y en a un qui commence à rire et puis là, ça déboule et puis les autres en viennent...
C'est contagieux.
C'est très contagieux, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très irrespectueux, rire. Parce que c'est comme si, à quelque part, là, quand tu te mets à rire, c'est comme si tu te fous de tout. Ça peut même être vu comme étant, le rire étant irrévérencieux, dangereux même, parce que rire, ça veut dire que tu vas au-delà de la chose.
Et on ne se sent pas menacé, c'est quand on rit,
non,
dans un sens.
Non, c'est ça.
On rit de quelque chose, l'objet du rire devient quelque chose peut-être qui était menaçant avant, devient maintenant ridicule.
C'est ça.
Devient petit.
Oui.
Et c'est connecté directement au bien-être, c'est l'instant présent même. Mm-hmm. Donc, ça diffuse ce bien-être, cette énergie-là. Il est évident que ça va complètement à contre-courant des convenances, du ci, du ça, du cadre bien, bien poli, là, bien réservé. Et donc, ça fait voler en éclats, mais de façon tellement insidieuse, de tellement bénéfique, que c'en est à la fois jouissif, mais à la fois complètement, complètement dangereux pour le pouvoir en place.
Mm-hmm. Et je pense que c'est pour ça qu'on vit présentement une période d'austérité. On voit ça dans certains pays, aussi comme en Espagne, l'austérité. Aux États-Unis, le niveau de danger est toujours le plus élevé possible. Les gens ont peur et ils oublient de rire. Parce que si on rit, les gens qui rient sont libres, se sentent libres. En tout cas, ça décontracte, ça relaxe.
Avez-vous remarqué que les gens, il me semble qu'on rit moins de façon générale qu'on riait il y a une cinquantaine d'années, il y a une trentaine
d'années. Toi aussi, t'as remarqué, hein? Oui, il me semble que oui.
Il me semble que les
J'étais
gens...
Pas là,
avaient...
non, Oups!
Moi, j'ai entendu dire, là.
Oui, selon les rumeurs.
Oui, c'est ça. Mais selon il me semble qu'il y a quelques années... T'sais, les gens avaient du fun noir, là, t'sais, là, ils riaient. Là. Aujourd'hui, les gens sont plus sérieux, raisonnables.
Ennuyés, hein?
Oui.
Plate.
Et puis, plus stressés aussi.
C'est même
parce que le rire décontracte, libère le stress.
Oui.
Peut-être, j'ai entendu, il y a quelques années, j'avais entendu là, quelqu'un, une personne qui faisait des thérapies par le rire. Mm-hmm. Et puis, sur le moment, je me dis, regardons ça, c'est curieux, une thérapie par le rire. Et puis après ça, je me dis, c'est pas fou. Au contraire, les gens ont besoin de rire.
Mm-hmm. Il existe le yoga du rire. Là. J'ai vu ça.
Oui.
J'ai des clients qui font ça. Là.
Oui.
C'est un yoga de rire. Ils se rassemblent. Là. C'est comme une thérapie, comme tu dis. Les gens se rassemblent et ils rient. Il n'y a rien de drôle nécessairement, mais ils rient.
Mm-hmm.
Ils se font rire. Là.
Et puis, tantôt, tu disais quelque chose, Franck, tu as parlé de la jouissance là, ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que le rire est très semblable à la jouissance. Parce que les vibrations des spasmes du rire, tu sais, quand on rit, là, alors les vibrations sont très semblables à celles de l'orgasme.
Elles viennent du bas, souvent du ventre, là. Quand tu dis un rire du ventre, là, hein,
oui, c'est pour ça que le rire, c'est très jouissif.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, un homme, sachez-le, messieurs, qu'un homme qui sait faire rire une femme... C'est déjà conquis, hein?
Mmh.
Les femmes adorent les hommes qui les fassent rire. Il n'y a pas les petites faces plates, là, on s'entend, là, mais un homme qui est capable de faire rire une femme par quelque chose d'intelligent, là, mais de drôle, là,
On dit une femme qui rit est à moitié conquise.
Voilà. Voilà. Ah,
oui,
voilà.
Tu parlais tout à l'heure là, de l'orgasme qui est associé à ça. Et ça me fait penser à l'éternuement. Mm-hmm. Tu sais, quand tu éternues, là, il faut que tu éternues. Oui. Et donc, et il paraît que l'éternuement, c'est y a comme une espèce de... Comme si c'était un mini-orgasme, en fait.
Oui.
Et la connexion que je fais avec le rire, c'est que l'éternuement comme le rire, c'est quelque chose qui vient de façon tellement spontanée que tu ne contrôles pas le truc, ça sort comme ça.
Oui, tu as dit tantôt le moment présent, c'est très vrai. Un éternuement, là, c'est comme si pendant quelques secondes, là, le temps vient de s'arrêter. Tu es dans l'éternité.
Oui.
Le rire, c'est la même chose. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur, tu es vraiment dans le moment présent.
Et c'est pour ça que c'est bon en plus.
Oui, oui.
Tu lâches.
Oui.
Il faut apprendre à rire de soi-même. On devrait le matin se réveiller et se regarder dans le miroir et rire de nous comme ça. Si des gens rient de nous pendant la journée, on peut leur dire que ça a déjà été fait.
Oui. Ah ouais.
Mais tu m'apprends rien, tu ris de moi, tu m'apprends rien.
C'est ça, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Je crois que quand on veut s'éveiller, il faut vraiment ne plus avoir du tout peur du ridicule parce que tout de suite, on est catalogué comme ridicule.
Peur du ridicule, c'est puissant, la peur du ridicule dans la tête de plusieurs. Mm-hmm,
mm-hmm. Je pense que c'est les gens qui sont un peu trop préoccupés par l'aspect de la personne, l'ego.
Mais ils croient que la matière est vraie, c'est pour ça. Hein? Ils croient qu'ils n'ont pas une vision immatérialiste.
Ou ils s'identifient encore à la personne. Moi, j'ai cessé de m'identifier à Nicolas Lehoux. Je ne suis pas que Nicolas Lehoux. Donc, si on me ridiculise, pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Je ne suis pas que cet algorithme, si on pourrait dire. Suis plus que ça, donc je vois pas comment quelqu'un pourrait me rire de moi, me faire rendre ridicule.
C'est pas quelque chose qui te dérangerait parce que tu es au-delà de ça. Même chose, par contre, hein, rire des politiciens. Rire des snobs. Tu sais, ceux qui se prennent au sérieux, là, les gens raisonnables. C'est bon, ça. Parce que ça les déconstiperait, ça leur apprendrait. Parce que ou bien tu apprends à rire de toi, ou bien tu es pris avec ça, et puis là, tu as un gros problème.
Mais d'ailleurs, tous ceux qui font des manifestations, là, où l'année passée, ils avaient les casseroles. Moi, c'est difficile pour moi de croire que ces gens ont vraiment compris quelque chose. S'ils avaient compris, à mon avis, ils iraient devant la sortie de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ils attendraient que les politiciens sortent et ils riraient d'eux.
Oui.
Tout le monde ensemble, on devrait rire d'eux. Et ça leur enlèverait toute contenance. Ils verraient qu'ils sont ridicules. Mm. Et je crois que là, on aurait un changement. Et ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Les gens vont être violents, vont être fâchés, vont être indignés, mais jamais ils ne vont rire.
Alors justement, pour revenir aux casseroles, pour y avoir participé nombreuses fois, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose aussi de très enfantin et de très libérateur dans le fait de taper d'une casserole. Oui. Et ça se rapproche un peu du rire ou un peu du comportement enfantin.
Oui.
Alors on s'entend que ça ne fait peut-être pas changer considérablement les choses, mais ça a un effet libérateur. Et plutôt que de manifester, râler, gueuler, tout ça, le fait de taper dans une casserole, ça a un côté tellement à la fois ridicule, décalé, que d'une certaine façon, il y a comme une façon de se libérer. Et puis, à la fois de rire de soi, parce que taper sur une casserole, c'est quand même un peu con, quoi. Mais le fait de le faire ensemble, de le faire à plusieurs, ça a un côté libérateur. Donc si ça a permis ça, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Et là où je voulais en revenir pour avoir, pu assister à ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se rapprochait du rire, de quelque chose de communicatif. Et il y avait comme une espèce de communion. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est complètement salutaire. Et même si ce n'est pas forcément la bonne démarche, la bonne approche, qu'importe, c'est au moins exprimé et c'est au moins fait. Mm-hmm. Et je trouve que c'est peut-être un pas ou une préparation vers d'autres actions, peut-être encore plus jouissives.
Oui, c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien.
Mais à mon avis, le summum, puis ça n'a pas encore été fait dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment de rire. Et si les gens faisaient ça, on aurait tout de suite un changement de vibration sur la planète. Au lieu d'être indigné, on serait
apprendre à rire.
Hilar.
Apprendre à rire du sacré aussi. Oui. Parce que, comme on disait tantôt, le rire est près de la jouissance. C'est ce qui nous libère. Et c'est pour ça que l'Église n'aime pas n'aime pas le rire, n'aime pas la jouissance, parce qu'on ne peut pas contrôler quelqu'un justement qui est dans le moment présent puis qui rit puis qui a du fun.
C'est parce que ça élimine la peur. Ça élimine la peur.
Ça élimine la peur, c'est ça, parce que l'Église s'est dit à un moment donné, on connaît le fameux livre hein, « Au nom de la rose hein? ». Alors, c'est un livre qui
d'Aristote.
Oui, le bon film aussi, là, oui. Qui porte sur le rire, justement, oui. Et ce sont des prêtres dans un monastère qui veulent lire le livre, mais pour les autorités ecclésiastiques, pour ne pas que les prêtres partagent ça, ces notions-là sur le rire. Bon, finalement, faire une histoire courte, là, il y a du cyanure à toutes les fois qu'ils tournent la page
en humectant
la langue. Oui. Et tout ça. Bon, alors, ils se trouvent être empoisonnés. Pourquoi? Parce que si l'Église acceptait que ses fidèles commencent à rire, ben, les fidèles finiraient par rire du diable,
oui.
Finiraient par rire des textes sacrés, mm-hmm. Et finiraient par rire de l'Église. Donc, ça saperait complètement l'Église.
On devrait rire de l'argent en passant, juste une petite pensée.
Oui, aussi. Alors, rire de l'argent, des politiciens, de tout ce qui est sacré, pour de l'Église, pour justement devenir libre.
On va faire une pause musicale avec justement des gens qui savent rire. Là. Ça s'appelle les Chicken Swell, et c'est des humoristes québécois. Ils ont-tu fait un peu de chansons? Cette chanson s'appelle Maniaco-dépressif. Mm. Puis on revient après la pause avec que le rire est anti-administratif.
Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Je pense maniaco-dépressif. Une journée, je me lançais en bas d'un précipice. Le lendemain, je veux escalader l'Everest. Le surlendemain, je suis déprimé, j'ai plus la force de bouger. Deux heures plus tard, je causerai avec pour une issue. Hein. J'ai jamais confiance en moi, mais je me sens le plus fort du monde. S'il vous plaît, attachez-moi parce que je vais tout vous clencher. Ça va bien, encore plus bien, toujours plus bien, je me sens plus hot. Mais si je pense, c'est déprimant, j'avais pas fait, je suis en pyjama. Mais j'ai le monde à ma portée, quoique c'est eux autres qui me supportent. Je pense que je suis maniaco-dépressif. Ok, j'aimerais que toutes les voix dans ma tête participent. Il va bien, il va bien, il va bien, il va bien, il va mal, il va mal, il va mal, il va mal, il va bien, il va mal, il va bien, il va mal. On pense qu'il est maniaco-dépressif. Solo d'amis imaginaires. Ça va bien,
il va mal,
ça va mal,
il va bien,
ça va mal,
il va bien,
ça va bien,
il va mal, comment ça va?
Ça va mal,
t'es sûr?
T'es bien, je pense maniaco-dépressif.
De retour à Propos sur le bonheur. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Le rire est anti-administratif ». Vous le savez maintenant, on l'a dit depuis tantôt, le rire c'est anti-politique, c'est anti-autorité, ça incite à la désobéissance, ça incite à la transgression joyeuse.
Mm-hmm. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, si on prend ça, puis on peut prendre un exemple, si on peut rire du système de l'économie basé sur une dette fictive.
Oui.
Tu sais, la dette nationale ne peut pas survivre un examen profond. À qui on doit 48 trillions de dollars? Là?
Oui, oui.
C'est ridicule. Hein? C'est quand je vois ça à la télé, moi, ça me...
C'est qui a besoin de cet argent-là?
Oui.
Hein? C'est à qui ça se passe? Où c'est qu'elle est cette personne? Non, on la voit jamais. Rire de ces folies furieuses qui est le sens de l'importance de l'argent et de revirer ça de bord et puis peut-être amener, puis c'est ça qui serait la magie, c'est d'amener un mouvement peut-être de non-violence, mm-hmm, de non-coopération, oui, mm-hmm, à des choses qu'on reconnaît comme ridicules.
Oui, tu sais? Dire simplement non, merci.
Donc, entre autres, le système bancaire. Vraiment...
Et surtout le système. Et surtout le système bancaire. Et surtout quand tu sais que, par exemple, en Europe, ou enfin même dans le monde, tu as des agences de notation qui vont donner des bonnes notes ou des mauvaises notes à des pays. Ouais. Mais c'est quelques hurluberlus là qui, ouais, décident de dire, c'est un petit peu comme dans un maître dans une classe qui déciderait que tel élève, en fait, c'est pas ta copie, c'est tu vaux telle note ou tu vaux telle note.
Et, voilà.
Et puis par rapport à ça, on va baser une économie globale mondiale qui va, et ça va avoir une répercussion sur des milliards, pas des millions, des, mm-hmm, milliards de personnes. Mm-hmm. C'est complètement hallucinant. évident. Et quand on sait que toute la presse, que tous les médias, toutes les entreprises sont au service, enfin, des entreprises, les grosses multinationales, ouais. les grosses machines sont au service de ça, là, de système basé sur rien du tout, c'est complètement hallucinant. Mmh, mmh, c'est complètement hallucinant. Il y a juste quoi, un pays, la Finlande, qui a décidé de dire aux banquiers, allez vous faire voir. Mmh. Résultat des courses, aujourd'hui, ils sont bénéficiaires, ils ont une économie qui fonctionne, ils ont des emplois, parce que ça, c'est le maître mot, là, créer des emplois et tout ça. Et voilà, mais ça repose sur quelqu'un qui était capable de dire non. Enfin, quelqu'un et plusieurs personnes et des individus qui ont décidé de dire non. C'est si compliqué de dire non.
Ben pour les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont amassé des fonds pour leur vieillesse et qui sont, pour eux, je crois que c'est la fin du monde. Oui, ils sont attachés à ça. Pour moi, c'est facile de dire non, merci, parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de dette.
Je n'en veux pas et je n'en aurai pas non plus.
Choix, donc, pour moi, c'est très facile de rire des institutions, puis rire du système de santé, système scolaire, système... C'est une mafia. Tout ça, c'est une mafia. On n'en a pas besoin, à mon avis. On est capable de s'en sortir. Mais il y a ce saut quantique que les gens ne semblent pas capables de faire. Bien, plutôt ceux qui ont peur, qui s'accrochent à cette fausse stabilité. C'est une fausse sécurité. Mm-hmm. On paye des assurances. Bien, moi, j'en ai pas. Premièrement, mais ceux qui prennent des assurances, c'est que peut-être qu'un jour, s'il arrive quelque chose, mais quand il arrive quelque chose, la compagnie d'assurance ne leur donne rien. Mm-hmm. Donc, c'est ridicule. Pour moi, c'est... Oui.
Tu as mentionné quelque chose d'essentiel, c'est l'aspect de la peur qui est vraiment à des années-lumière du rire, puisque dans le
c'est
rire
l'opposé,
contre le rire,
oui.
C'est l'opposé.
C'est l'antidote. Donc, c'est le rire et l'antidote.
Oui. C'est le rire et l'antidote de la peur. Mmh. Donc ce serait vraiment de transformer, de faire ce saut quantique de transformation de la peur en autre chose, en gaieté, en joie, en plaisir de la vie et tout ce qui s'ensuit. Et là, ça poserait un regard complètement différent.
Mais les maîtres du monde, présentement, ont une très grande créativité à générer la peur chez les gens, chez le peuple, surtout les gens simples, les gens qui sont ignorants, qui ne sont pas éduqués. Ils sont très faciles. Il suffit d'entrer ça dans la télévision, qui est l'opium du peuple, les films, tout ça, c'est une propagande.
Oui, tu as aussi la peur qui est du côté des gens très éduqués et qui occupent des hauts postes, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit dans les grosses entreprises et tout ce gros système-là. Il y a aussi de la peur, parce que c'est une peur qui se matérialise comment ? C'est une peur qui se matérialise par le fait qu'ils considèrent que les gens de la base pourraient absolument pas se gouverner ou sont ingouvernables et que donc il faut des barrières et que donc il faut mettre en place des systèmes pour contrôler ces individus. Alors que si ça se trouve, si chacun se libérait des deux côtés, aussi bien des individus vis-à-vis, par exemple, des structures dominantes que les structures dominantes vis-à-vis des individus, là, ça commencerait à... On aurait certainement une civilisation beaucoup plus intéressante et beaucoup plus évoluée.
Mais ça fait vraiment longtemps qu'on est comme ça. Moi, je pense que le problème a commencé lorsque... c'est la peur de manquer, à mon avis. C'est ça, la peur. Mm-hmm. Donc, c'est quand les êtres humains ont commencé à faire de l'agriculture, à devenir sédentaires, à commencer à vouloir engranger de la nourriture parce qu'ils avaient peur. Les animaux n'ont pas peur. Mm-hmm. Je crois qu'ils vivent dans le ici maintenant. Ils trouvent toujours de la nourriture. Jackie, tu l'as déjà dit, un oiseau ne manque jamais de nourriture. Pourquoi on en manquerait?
Les enfants non plus n'ont pas peur. Les enfants n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur du lendemain. Ils n'ont pas peur de manquer d'argent. Ils vivent dans le moment présent. Et puis, c'est un exemple qu'on devrait prendre sur eux aussi. Et puis, les enfants rient, aiment rire.
Oui. Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur réduire la peur sur l'économie, les ressources, ces choses-là.
Oui, mais ça me fait penser aussi, par contre, vous savez, on a beaucoup d'humoristes au Québec. Oui. Alors, les humoristes font rire. Hein? Alors, on sait bien, les salles sont pleines parce que les gens ont besoin de rire, ils aiment avoir du fun. Et les humoristes dénoncent ce genre de les règles strictes du système, etc. Ils vont rire des handicapés, tout ça. Par contre, je pense qu'une nuance à faire ici. À partir du moment qu'un humoriste va commencer à faire rire les gens sur des points importants comme ça, le fait de faire rire les gens sur ça banalise le fait, à mon point de vue. Je pourrais presque dire que les humoristes sont du côté de la loi générale, du côté du crime. Je pourrais même dire parce que si, par exemple, un philosophe, quelqu'un de sérieux, arrivait à dire la même chose qu'un humoriste le fait, mais sans faire rire les gens, il serait, ou bien il ne serait pas pris au sérieux, ou bien il serait condamné. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Oui.
Alors justement, par rapport à ça, je suis vraiment très content que tu soulèves cet aspect des humoristes, parce que, bon, vu que je suis français et qu'on a un humoriste en France qui a beaucoup de succès, mais qui est flushé par tous les grands médias. Cet humoriste, c'est Dieudonné.
Oui.
Dieudonné met vraiment la main sur les sujets les plus tabous qu'il puisse y avoir dans la société, et notamment en ce qui concerne, Israël, en ce qui concerne la Shoah et tout ça. Donc, il met vraiment en fait, c'est vraiment le fils spirituel de Coluche qui avait vraiment cette même attitude, cette même façon de prendre les choses.
Coluche qui était assassiné d'ailleurs.
Ça n'a pas été très bon pour lui, comme pour tout individu qui ne veut pas. Alors Dieudonné n'a pas été assassiné, par contre il a été assassiné médiatiquement. C'est-à-dire que il s'est retrouvé vraiment mis à l'écart. J'ai retrouvé encore des vidéos où dans les médias il était invité, et vraiment, mais on sent vraiment qu'il fait peur et que donc il faut l'éliminer.
Oui.
Et donc il s'est fait éliminer entre guillemets médiatiquement parlant, mais là où c'est génial et là où le rire a vraiment une fonction sociale salutaire, c'est qu'il remplit des salles à côté de ça. Ces salles, quand il fait des spectacles, elles sont combles. Et pourtant, il n'a pas de pub, il n'a plus aucune visibilité médiatique, et ça fonctionne. Et c'est d'autant plus salutaire qu'il peut exprimer ce que les gens ne peuvent pas exprimer ou ont du mal à exprimer.
Oui.
Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment, je pense, le fou du roi qui est là pour permettre aux gens d'expier, en fait, les problèmes sociaux, les problèmes identitaires qu'ils peuvent avoir. Mmh. Et là, Dieudonné, là où il fait vraiment son rôle d'humoriste, c'est qu'il est justement à contre-courant de ces humoristes qui sont dans le système.
Oui. La majorité des humoristes sont dans le système.
Exactement.
Oui. Il y a un peu comme une soupape de sécurité dans la société.
Oui. Oui. Complètement.
Oui.
Et c'est vraiment encore...
Mais qui banalise le problème.
Banalise le problème en faisant rire. Alors, c'est important de comprendre ça. Parce que si tu ris, par exemple, de quelque chose dont normalement tu ne devrais pas, mais un humoriste le dit, tu ris. Donc, tu viens de banaliser ça, tu viens de rendre ça acceptable, et puis bon, c'est pas grave.
C'est vrai.
Alors que si c'est quelqu'un, comme Dieudonné est un humoriste, mais est un des rares sur la Terre, c'est un homme extrêmement intelligent, c'est un homme qui comprend les vrais problèmes, et c'est pour ça d'ailleurs que sa vie peut même être en danger, parce que ceux-là, alors je voulais apporter ce point-là, parce que je pense qu'au niveau du rire, c'est important à un moment donné d'en prendre, parce qu'on en a plein d'humoristes à la télévision qui disent des sornettes, des platitudes, n'importe quoi, les salles sont pleines aussi. Faudrait peut-être à un moment donné là.
Parce que le rire, c'est un sujet sérieux.
On va avoir de la misère à arrêter l'émission. Là. On est parti sur notre lancée, mais il le faut. Nous n'avons que 28 minutes. Alors, merci d'avoir été parmi nous avec cette émission. Et on vous invite à écouter nos podcasts sur Radio H2O ou à visiter notre site web au proposurlebonheur.com. Et on vous laisse avec une chanson de Whatcha Clan qui s'appelle « On n'est pas là pour rigoler ».
On n'est pas là pour rigoler, passer l'âge de l'insouciance, c'est triste d'accord, mais nos sociétés ont fini de nous faire marrer, on esthétise, cache misère, on invente des plaisirs, dans un monde de loisirs, nous voilà téléguidés. On n'est pas prêt à partager, mais on veut plus de temps libre, pas question de lâcher quelques heures de travail. Les temps sont durs, c'est l'heure des on parle de récession, toujours pas de révolution. Certains se sont décarcassés, se se sont battus pour faire avancer. Génération sacrifiée, tout est à recommencer, à reprendre, à retravailler. On pardonne le passé à un homme politique, on accorde l'immunité. Mais alors, jeune novice, pourquoi s'accrocher, s'attacher à cette notion d'intégrité? Ton maître, ton mentor, ton exemple est pourri, alors pourquoi t'en profiterais pas? Il faudrait être un âne et capable de le rester pour voir les autres se gaver sans vouloir aussi jouer au jeu des privilégiés. Privilège d'être né blanc en Occident, dans une famille aisée avec des rêves d'enfants. Continuer à m'amuser, à laisser mourir loin et puis tout près, juste en bas de chez moi. On meurt de froid, mais moi j'y suis pour rien. Moi je travaille, moi j'ai un job et j'assure pour faire vivre ma famille. Les rebelles marginaux, ils ont choisi leur différence. Cigale, ça va l'été, fallait penser à assurer. Les temps sont durs, c'est l'heure des décisions. On parle de récession, toujours pas de révolution.